My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas. Des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à toutes les auditrices, spécialement les auditrices aujourd'hui, mais les auditeurs aussi bien sûr, des enfants du Nouveau Monde. Aujourd'hui, j'ai envie de consacrer cette émission au féminin, à l'énergie du féminin, pour connaître un peu mieux cette énergie qui malheureusement a été beaucoup dévalorisée au fil des siècles et dans notre culture et qu'on a vraiment intérêt aujourd'hui à redécouvrir et à revaloriser pour pouvoir s'équilibrer nous-mêmes et aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs et dans notre rapport à la vie. Et pour parler de tout ça, eh bien c'est Bertie qui est avec nous. Bonjour Bertie.
Bonjour.
Donc toi tu es la créatrice de l'agenda émotionnel, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Alors qu'est-ce que c'est cet agenda émotionnel ?
Eh bien, c'est un agenda que j'ai créé pour que la femme puisse reprendre conscience et confiance en sa nature cyclique. Donc, c'est un outil avec lequel elle peut pratiquer au quotidien l'auto-observation. C'est-à-dire que c'est une mise en page un peu particulière, puisque pour chaque semaine, la femme a 2 pages pour organiser son temps de manière classique, mais elle a aussi 2 pages pour laisser une trace écrite des différentes ambiances dans lesquelles elle va traverser son quotidien. Et c'est par cette trace écrite et un système de numérotation particulier en fonction de son cycle qu'elle va pouvoir revenir en arrière et pouvoir établir le propre rythme de son cycle et les différentes phases qui le constituent, toutes ces phases qui l'influencent, toutes ces capacités qui lui sont proposées, etc. Elle va pouvoir mettre en parallèle comment tout ça se manifeste dans sa vie.
C'est dégager des grandes tendances, finalement, dans son cycle, et puis apprendre à mieux se connaître, ça serait ça l'idée ?
C'est ça, ouais. Voilà. Donc il y a toute une introduction dans cet agenda qui, de manière très synthétique, donne l'essence de cette dimension cyclique, de manière à découvrir les différentes phases qui nous boostent, enfin, les différentes manières dont on va être boosté au quotidien.
Quel type d'énergie, finalement ? Parce que des fois boosté, des fois pas boosté.
C'est ça, mais on est toujours boosté pour quelque chose, mais et c'est vrai que c'est plus ou moins concret suivant les phases. Voilà.
D'accord. Alors justement, cette nature cyclique du féminin, ça constitue vraiment sa définition. Le féminin se définit par sa nature cyclique.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est hormonal. Chaque mois, le corps de la femme se prépare pour éventuellement donner la vie, ce qui va engendrer un processus hormonal particulier qui se manifeste en 4 phases principales.
Donc on va les voir, on va revenir dessus, hein, bien sûr, tout au long de cette émission.
Et ces 4 phases génèrent chacune des ambiances très particulières dans sur les 4 plans, sur les différents plans, donc physique, mental, émotionnel et spirituel. Ces 4 plans vont être différemment influencés lors de ces différentes phases. Voilà.
D'accord. Et c'est important pour moi de bien pointer du doigt que là, on s'intéresse à l'énergie du féminin et que l'énergie du féminin n'est pas réservée aux femmes. Alors évidemment, les femmes, on est, la concrétisation la plus évidente, l'incarnation la plus évidente de l'énergie féminine, mais nous n'avons pas que cette énergie-là, nous avons aussi du yang en nous et les hommes, pareil, simplement, on a une polarité féminine plus importante. Et donc tout ça n'intéresse pas que les femmes, mais intéresse tous les êtres humains.
Bien sûr, pour que ça peut aider les hommes aussi à d'entendre tout ça, ça peut aider les hommes à eux se connecter à leur part de féminin qui va être dans l'intuition, dans l'empathie, etc. Donc voilà, c'est très intéressant pour eux-mêmes, mais aussi pour qu'ils comprennent quel est notre fonctionnement finalement, et justement qu'est-ce qui explique tous ces changements d'humeur, d'envie, de besoin, qui ont au final une connotation assez négative dans la société.
Oui.
Et c'est toute cette connotation négative qui serait bon aujourd'hui justement de changer notre regard de manière à lever la culpabilité que les femmes portent, puisque c'est cette culpabilité qui génère entre autres... c'est pas que ça, mais c'est entre autres ce qui génère beaucoup de colère et de frustration. Donc il est important aujourd'hui de changer ce regard et de comprendre l'intérêt de cette nature cyclique et ce qu'elle apporte à chacun.
Donc pour résumer, en gros, la culture attendrait de nous que nous soyons constantes, la culture actuelle dans laquelle nous baignons.
Voilà,
c'est ça. Hein, voilà. Et on attend de la femme qu'elle soit constante, qu'elle soit
constante
toujours...
et productive et toujours de bonne humeur, lisse, etc. Ce qui n'est pas et ce qui ne peut pas être...
notre nature profonde.
Ce qui ne peut pas être de par le fait que notre rôle est défini par quelque chose de cyclique. Voilà.
Et d'ailleurs, quel est l'intérêt du coup de cette nature cyclique ? Tu m'en as parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir être adaptable, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ?
Voilà, c'est-à-dire que donc cette capacité que la femme va avoir à changer d'humeur, d'envie, de besoin comme ça, et suivre un rythme dynamique puisqu'elle va traverser 4 phases en une moyenne de 29 jours, ça va lui proposer... Des capacités différentes, et donc elle sera comme formée tout au long de sa vie à être très adaptable et à avoir la capacité à gérer beaucoup de choses sur le plan émotionnel. Elle a une très grande capacité à gérer plein de choses, quoi. C'est entre
différentes,
autres, voilà, coup. Plein de choses différentes. Elle peut gérer beaucoup de choses compliquées. Elle a cette capacité à porter toutes les
la
vagues.
La diversité, en fait.
Voilà, la diversité, toutes les vagues, tous les événements de la vie. Elle est, de par sa nature cyclique, habituée à monter, descendre, ressentir plein de choses différentes, et ça la forme de manière à pouvoir s'adapter et accueillir toutes les différentes éventualités de la vie. Voilà.
D'accord. Et donc effectivement, c'est important de réhabiliter cette nature cyclique et d'en prendre conscience, c'est-à-dire de pouvoir œuvrer dans notre vie en harmonie avec ce cycle et non pas de se faire la guerre à soi-même, parce que on se sent, on aimerait être performante et puis qu'au contraire là on est HS et qu'on aurait plutôt besoin d'être dans une phase plus intuitive, de rêverie, de réceptivité, etc. Et vice versa, de s'énerver quand on est un peu trop active et qu'on se dit j'aurais besoin de repos. Bref. Accepter toutes ces différentes phases et aller dans le sens du courant, quoi.
Voilà, les accepter et arriver à les percevoir comme une force. Oui, je suis cyclique. Oui, je change d'humeur. Oui, je n'ai pas toujours envie de la même chose. Et oui, hier, j'avais envie d'autre chose. Et oui, voilà. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à poser des mots sur des ressentis pour pouvoir les communiquer le plus justement aux gens avec qui on vit. Que ce soit les compagnons, les enfants, les amis, la famille, peu importe.
Bien
en fait,
sûr.
C'est global. C'est pour pouvoir mieux vivre encore ensemble en fonction de nos particularités à chacun. Voilà.
Et bien évidemment, comme avec tout le reste, quand on s'autorise à soi-même, on autorise aussi les autres de pouvoir faire de même. Et on donne
voilà.
Un joli modèle.
Et voilà, c'est ça.
Ok. Alors, bah, écoute, je veux bien qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous décrives un petit peu ce fonctionnement cyclique. Tu as fait un très joli schéma donc dans ton agenda émotionnel qui suit évidemment le cycle de la Lune, puisque ce cycle est un cycle lunaire.
Voilà, donc pour que ce soit à peu près clair comme ça, sans image, on peut partir du principe que la femme va traverser les 4 saisons en un mois. J'ai donc assimilé chaque phase de ce processus hormonal à une saison. Et donc, on part du principe que la femme traverse son printemps, son été, son automne et son hiver intérieur lors de chaque mois. C'est-à-dire que, à l'image des saisons de la Terre, les ambiances qui vont découler de ces phases-là vont être
très différentes.
Très différentes. Et donc, pendant son printemps intérieur, la femme va être dans une ambiance équivalente à celle que l'on vit tous pendant le printemps de la Terre. C'est-à-dire donc cette énergie de renouveau, les beaux jours qui arrivent et qui donnent la confiance, l'envie. Donc, c'est l'œstrogène qui, dans son corps, va permettre la fabrication de toute la muqueuse utérine pour accueillir l'éventuelle vie à venir.
Voilà, parce que ce qu'il faut bien bien comprendre, c'est que toutes ces différentes phases sont orchestrées par un espèce de cocktail hormonal bien
voilà,
bien
c'est le dosé. Processus hormonal qui opère chaque mois.
Voilà.
Même si la femme ne veut pas d'enfant, son corps, lui, se prépare à en avoir. Et donc, ce processus hormonal étant de quatre phases principales, les quatre différentes ambiances dont je vais vous parler sont à l'image de ces quatre phases-là.
Voilà, donc à chaque fois, on va avoir une hormone qui va prédominer chaque
c'est
saison.
C'est ça, ou pas d'hormone.
Ou pas d'hormone, voilà. Donc voilà. Ça, tu vas pouvoir nous le dire. Donc au printemps...
Donc au printemps, c'est l'œstrogène qui va accompagner le quotidien de la femme. Et l'œstrogène lui permet la lucidité, la clarté d'esprit... Ça va être pour elle le moment de faire le point sur ses priorités. Elle va exactement savoir ce qu'elle a à faire pour matérialiser concrètement la direction dans les ou la direction dans laquelle elle veut se diriger dans sa vie. C'est un moment où elle a des capacités cognitives excellentes et un dynamisme physique qui lui permet d'être dans l'action.
Gardons à l'esprit que pendant tout ce temps, à l'intérieur de son ventre, c'est le petit nid qui est en train de se préparer. Donc on est vraiment dans l'énergie de construire un projet, construire et d'avoir la lucidité pour cela.
Voilà, la confiance en soi pour qui va accompagner le fait de commencer des nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est donc un moment où elle est très efficace.
Okay.
Confiante et efficace. Voilà. Donc ensuite,
et pleine d'énergie.
Pleine d'énergie.
À l'image du printemps.
Avec un mental qui peut être assez actif, plein d'idées, la capacité à faire plein de choses à la fois, voilà. Donc ça, c'est l'œstrogène qui permet tout ça. Et quand l'œstrogène aura fait son travail, qui sera donc arrivé au taux maximum, l'ovule sera libéré dans l'utérus et à ce moment-là, il y aura une baisse d'œstrogène et une montée de progestérone. Et c'est donc la progestérone qui va accompagner la femme le temps de l'ovulation, tout le temps où elle sera féconde. C'est la progestérone qui va déterminer, qui va agir sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel de la femme. Et donc cette hormone va continuer à permettre à la femme d'être dans un dynamisme physique et une phase d'ouverture au monde. Par contre, sa détermination du printemps va se transformer en plutôt l'envie de réunir, d'être à l'écoute de ses proches, d'être dans l'envie de faire plaisir, de donner...
Quelque chose de plus serein, quoi.
Quelque
Au printemps,
chose de
on
serein.
Était dans quelque chose d'explosif.
C'est
et
ça.
Là, ça se pose, quoi.
Là, ça se pose. La femme rentre dans une dynamique très maternelle où elle va avoir la capacité de patience. Elle va commencer instinctivement à donner toute son énergie, à mettre toute son énergie au service des autres, même si elle est encore dans une phase où elle pense à elle, elle a confiance en elle, elle va pouvoir continuer de valoriser tout ce qu'elle a mis en œuvre auparavant. Ça va être un moment où elle peut présenter ses idées et négocier, convaincre, etc.
Voilà. Là, c'est une phase où la communication est valorisée et constructive,
voilà.
Parce que vu qu'on est tourné vers l'autre, on a envie
très
aussi,
à l'écoute, très à l'écoute, avec la capacité de prendre l'autre en compte, avec beaucoup d'empathie.
Et du coup, ça va nous donner une vraie force, comme tu disais, pour présenter nos idées, mettre en valeur un projet, etc.
Exactement, voilà. Okay. Et donc, le printemps et l'été sont des phases d'ouverture au monde, de connecter, où la femme est connectée dans la matière, aux autres, à ses proches, à elle-même, à ce qu'il y a à faire, etc.
Mandos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne. Main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise. Et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine. Et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdent et cela t'étonne. Laïa laïa. Rose trémière et joli cœur. Les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants. Poème posé sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
une mignonne, tout m'était dû par un revers de fortune. Voilà que j'ai tout perdu, de mémoire d'un mot d'apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Aïe aïe aïe, mon doux billet de rigueur, intrigues enflammées,
comme si l'on pleuvait
devant ma porte, prétendants et jeunes premiers,
comme si l'on pleuvait
des soupirants et des atourants, décédés si tu savais,
comme si l'on pleuvait
des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en sauraient compter,
comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne. La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne.
C'était Mayra Andrade dans Les Enfants du Nouveau Monde, consacrée à la nature profondément cyclique du féminin. Alors mieux connaître les forces de cette nature cyclique, c'est l'objet de cette émission. Et nous verrons tout à l'heure les cycles solaires ou annuels avec Saphira la sorcière. Mais tout de suite, suivons le fil du cycle lunaire ou mensuel avec Bertille. Nous l'avons vu dans les deux premières phases du cycle, le printemps et l'été intérieur, la femme est boostée par un cocktail d'hormones qui la rendent performante et dynamique dans le monde extérieur. Elle atteint le haut de cette vague avec l'ovulation. Et que se passe-t-il après ?
Et donc, s'il n'y a pas fécondation lors de cette phase, la femme va alors rentrer dans une phase qui va être donc l'automne intérieur, et à l'image de l'automne de la Terre, on va être plutôt dans une phase d'introspection.
Mmh.
C'est-à-dire qu'elle était jusqu'alors connectée au monde matériel, là elle va plutôt se connecter au monde de l'inconscient.
Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal à ce moment-là ?
Eh bien, c'est la chute hormonale, la chute de la progestérone, c'est-à-dire que progressivement, dans le corps, le taux baisse, dans le sang, le taux baisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'hormones dans le sang.
Ni progestérone, ni œstrogène,
ni progestérone, voilà. C'est-à-dire que le corps a reçu le message que l'œuf n'a pas été, l'ovule n'a pas été fécondé. Et donc, ce mois-ci, officiellement, il n'y aura pas de vie à venir.
Mmh.
Donc déjà, tous les mois, la femme va faire un deuil inconscient de cette vie qui ne viendra pas.
Mmh.
Ça, c'est déjà une des choses qui fait que ça peut la rendre irritable.
Mmh.
Ça n'est pas la seule chose.
Mmh.
Donc, cette connexion au monde de l'inconscient peut aussi la rendre irritable, vu que physiquement, elle est là, mais qu'elle va pouvoir rentrer dans des phases de rêverie, d'indécision, où chaque interaction avec le monde extérieur peut être perçue comme une agression suivant la sensibilité de la femme. Donc ça, c'est entre autres ce qui peut aussi provoquer de la culpabilité, de l'irritabilité, etc. De la culpabilité, parce que c'est pas facile pour elle de sentir que, justement, comme ça fait des centaines d'années qu'on assimile tout cet état à quelque chose de vraiment désagréable pour tout le monde, apparemment, la femme ne peut que emmagasiner au bout de je ne sais combien d'années, ben que c'est juste inconfortable en fait. Alors qu'en réalité, c'est une phase propice à l'intuition et au fait de recevoir des messages concernant la direction qu'elle a à suivre dans sa vie, quelles sont ses véritables envies, quels sont ses véritables besoins, qui elle est, ce qu'elle a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans sa vie, qu'est-ce qui va être bon de mettre en œuvre. Donc pour ça, elle va avoir la capacité de remettre en cause. Donc pour remettre en cause et pour faire un état des lieux efficace, ces 5 sens vont s'aiguiser. Et donc du coup, elle va être beaucoup plus sensible au niveau du goût, de l'odorat, de la vision, des sensations, etc. Et elle va peut-être, elle peut, dans ces moments-là, avoir des schémas de pensée assez négatifs, la concernant, concernant les autres. Elle va avoir une baisse de confiance en elle. Voilà, c'est un moment où elle va particulièrement observer tout ce qui n'a plus lieu d'être, puisqu'elle a le rôle de créer. Pour ça, il faut savoir donc aussi déconstruire.
Oui.
Et elle peut partir dans des schémas de pensée qui, pour les autres, peuvent ressembler à quelque chose de destructeur. Une fois de plus, suivant sa sensibilité et comment elle va donner la forme à tout ça.
Et c'est là qu'il est important aussi qu'elle ait à sa disposition un panel d'outils éventuellement thérapeutiques ou autres pour pouvoir faire réellement le deuil d'un certain nombre de choses, que ce soit des vieilles mémoires, que ce soit des anciens schémas de pensée, des façons de fonctionner qui ne lui correspondent plus aujourd'hui. Comment se réinventer ? Peut-être qu'à ce moment-là, elle a vraiment besoin de pouvoir s'appuyer sur des vraies ressources.
Eh bien, du coup, en fait, les ressources, elles sont en elle. Enfin, la première ressource est en elle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va être justement cette phase qui, a priori, est celle qui est associée à le plus d'inconfort physique, mental, émotionnel. C'est quand même culturellement une phase, la phase prémenstruelle, c'est la phase qui a une grosse connotation négative, alors qu'en réalité, ça va être le moment pour la femme de créer dans sa vie, pour elle, de s'exprimer dans sa créativité. Et la créativité, c'est pas forcément peindre un tableau ou
composer une sonate.
C'est ça. La créativité, c'est toute forme d'intuition. Peut générer de la créativité, avoir envie de changer tous les meubles de place dans sa maison, avoir envie de faire tel repas, avoir envie de faire une balade où je vais passer par là et par là. C'est créer quelque chose. Et en fait, toute cette énergie qui ne sera pas canalisée par cette vie à venir, c'est à la femme de la canaliser.
Donc l'énergie qui n'a pas donné une vie, c'est-à-dire que cet ovule n'a pas été fécondé, donc l'énergie n'est pas allée dans le sens de créer une nouvelle vie. Par contre, on peut l'utiliser, nous,
pour
en
soi.
Tant que femme, pour soi, pour notre propre vie,
voilà.
Pour créer notre propre vie.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces quatre phases génèrent beaucoup d'énergie qui vont se manifester de manière très différente. Et du coup, c'est ce qui va générer des capacités très différentes. Et c'est en utilisant ces capacités qu'on canalise cette énergie. Et c'est ce qui va faire que ça régule après les sautes d'humeur éventuelles. La femme a un réel pouvoir créateur. Et plus elle est près d'elle-même, à l'écoute de ses envies et de ses besoins, plus elle va équilibrer ses éventuelles sautes d'humeur. C'est vraiment à elle d'être à l'écoute de qui elle est et d'avoir confiance en les ressources qu'elle a en elle de manière à s'épanouir. Voilà.
Et donc d'écouter ses intuitions, comme tu disais, et de leur donner, vie, de les suivre, d'y croire.
De les suivre, d'y croire, de savoir les accueillir quand c'est le moment de les accueillir, de savoir les matérialiser quand c'est le moment de les matérialiser. Dans les différents domaines, ça va être à des moments différents. Et donc une fois justement que la femme aura fait cette... une fois que la chute hormonale aura opéré et qu'il y aura 0% d'hormones dans le sang... c'est donc par l'écoulement du sang que symboliquement le cycle trouvera sa fin.
Donc là on arrive à l'hiver intérieur.
Donc là on rentre dans l'hiver intérieur où la femme va donc c'est une généralité, mais lorsque le sang coule, en général les tensions s'apaisent. Le marasme de l'automne intérieur va se transformer en un état méditatif naturel où la femme peut avoir un mental très serein. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de chute hormonale, il n'y a plus de chute, il n'y a plus d'apport hormonal, c'est un moment de pause.
De calme en fait.
C'est un moment de calme et de pause où la femme va être un moment propice au repos, au lâcher prise. Elle va faire le point sur le cycle qui vient de passer. Ce sera le moment de conclure, mais aussi le moment d'introduire le prochain cycle en fonction de tout cet état des lieux qu'elle aura fait lors de l'automne intérieur. Voilà. Donc ça c'est l'idée la plus, c'est une grosse synthèse que je viens de faire. Bien évidemment, les quatre phases subtilement proposent de très très belles choses aux femmes, puisque ce processus hormonal l'influence dans son appétit, dans son besoin de sommeil, dans la perception qu'elle a d'elle-même, dans la perception qu'elle a du monde extérieur. Elle est influencée dans sa libido, elle aura des envies différentes, mais aussi des ambiances très différentes dans ses désirs. Elle est influencée dans sa manière de communiquer, c'est-à-dire que la même chose, elle le dira de 4 manières différentes, suivant là où elle en est. Donc, même pendant cette chute hormonale où souvent le doute nous prend et qu'on peut partir dans des schémas de pensée très négatifs nous concernant, il est très important de rester bienveillante, à savoir qu'à ce moment-là, on n'a pas forcément les capacités cognitives qui nous permettent une bonne communication, une écoute de l'autre. C'est un moment où on peut se sentir, où on peut culpabiliser d'être apparemment une mauvaise compagne, une mauvaise mère, ou pas efficace dans notre travail, ou je ne sais encore tout ce que la femme va bien souvent se dévaloriser. Alors que ça va être juste simplement le moment d'autre chose.
Oui.
Le moment d'autre chose, le moment d'accueillir, le moment de vivre en soi, le moment de ne pas oublier que c'est utile pour soi, mais aussi pour les autres, qu'on a un vrai rôle, et que c'est en se valorisant de cette manière-là qu'on va décupler son intuition.
Et on va développer peut-être d'autres parts de nous, par exemple, en allant se connecter à la nature, en renforçant notre connexion spirituelle, etc. C'est peut-être des moments qui sont consacrés à ça, finalement.
Et être à l'écoute de ses intuitions pour aussi créer, développer sa créativité et se l'autoriser. Voilà, donc c'est aussi prendre conscience qu'on peut poser des mots sur différents états. Moi, je me rends compte à partager avec beaucoup de femmes que on vit tous les mois, depuis nos premières règles, des ressentis très, très particuliers, mais en fait, on ne pose pas de mots. On n'a jamais posé de mots. Sur oui, effectivement, à ce moment-là, je vais être indécise, alors que dans une autre phase, je vais savoir très bien comment m'organiser.
Très déterminée,
ouais. Voilà. Oui, à ce moment-là, je suis pas concentrée. Oui, je suis rêveuse. Oui, voilà. Il y a tous ces mots à poser, et encore, là, j'en ai dit 4, mais il y en a une multitude. C'est à chacune, dans l'auto-observation, justement, de mettre en relief ce qui la détermine, ce qui la caractérise en fonction de qui elle est, en fonction de sa manière de ressentir les choses, de ressentir son cycle, de ressentir tout ça.
C'est un magnifique outil que tu as créé, cet agenda émotionnel. Donc là, il y a la version 2019 sous mes yeux. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a au-delà de cette présentation du cycle, alors ?
Alors, il y a une introduction qui donc explique toutes ces différentes phases que je viens de vous expliquer. Elles sont donc expliquées sur un schéma. Mais aussi.
Et d'ailleurs, ce schéma, donc, c'est un schéma circulaire, bien évidemment, puisqu'on parle de cycle. Donc, toutes ces 4 phases de saison intérieure sont entourées par les phases de la Lune qui influencent tout ça. Et tu me disais, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Voilà, parce que c'est calqué sur le sens de la Lune.
Autour de la Terre.
Voilà. La Lune fait partie d'un des repères dans l'auto-observation, puisque c'est important en tant que femme de. D'apprendre à voir si on a nos règles à la pleine lune, est-ce qu'on a nos règles à la nouvelle lune, quand est-ce qu'on ovule, est-ce qu'on est calé sur la lune, ou finalement est-ce qu'on ne l'est pas. Dans notre vie, on a beau être attentive à notre cycle, il peut y avoir des moments où il est très régulier, à des moments où ça change.
Oui, oui.
Et voilà, l'idée d'être en auto-observation, c'est aussi de suivre ce rythme. Voilà.
Alors là, justement, j'arrive à cet endroit-là de l'agenda émotionnel. Donc l'auto-observation, mode d'emploi. Donc tu donnes des idées, de comment s'auto-observer.
Voilà, puisque l'agenda est donc un outil propice à ça. L'idée, c'est d'apprendre tous les jours à se sonder et de poser des mots pour laisser donc cette trace écrite des différentes ambiances qu'on peut traverser.
Oui, en gros.
J'insiste bien sur le fait que c'est à chacune de trouver les mots. Ça, c'est pour guider dans un premier temps.
Oui. Tu donnes tout un tas d'exemples, par exemple, là je vais lire enjouée, ouverte aux autres, sensuelle, érotique, ou lasse, fatiguée, lourde, fragile, exigeante, sans envie, constructive, déconcentrée, qu'est-ce qu'on a encore, lucide, patiente, bref,
voilà
plein d'adjectifs qui nous permettent.
On a les différentes manières de communiquer, ça qui sont très intéressantes, franche, agressive, maladroite, constructive, objective ou non objective, puisque on a... une tendance à culpabiliser souvent de simplement être qui nous sommes. Donc c'est important de prendre la mesure de toutes ces variantes parce qu'elles sont clairement liées à donc ce processus hormonal.
Oui.
Et donc ensuite, la femme a pour chaque semaine 2 pages pour organiser son temps de manière classique, mais 2 pages où, de manière plus personnelle, elle va pouvoir laisser ses petites notes.
Voilà, lundi, et... comment je me sens, mardi, mercredi, etc.
Voilà, et l'idée, c'est de numéroter pour, en mettant le jour numéro 1, c'est le premier jour de ses règles, et en numérotant, on peut ainsi, au fur et à mesure des semaines et des mois, revenir en arrière. Et observer les similitudes, parce qu'il n'y a qu'en laissant une trace écrite qu'on peut vraiment se souvenir.
Bien sûr, ça bouge tellement.
Voilà, et noter aussi les événements extérieurs qui arrivent et qui nous influencent, comment on les accueille. Puis aussi, là je m'adresse aux femmes ménopausées, qui elles, a priori, n'ont plus leurs règles, mais qui restent de nature cyclique.
Ok.
Et donc, si elles n'ont plus le sang pour faire repère fin et début de cycle, elles peuvent se servir de la lune et mettre le jour numéro 1, le jour de la nouvelle lune, de manière à pouvoir numéroter et elles aussi observer leur phase de repli, leur phase d'ouverture, etc. puisqu'elles restent empreintes de ce cycle qui a rythmé leur vie pendant tant d'années et parce que la femme est donc de nature cyclique profondément et même pendant la ménopause, voilà.
D'accord, bah merci, c'est un très bel outil. Et alors du coup, toi tu transmets ce savoir, cette connaissance sur la nature cyclique du féminin?
Voilà, moi je fais ça donc chez des particuliers ou alors dans n'importe quelle structure qui s'y prête, chez n'importe quel praticien ou thérapeute divers qui voudrait organiser un événement afin de faire découvrir ce message. Donc moi je me déplace et j'œuvre dans ce sens, voilà.
Ok, et tu vends cet agenda sur un site internet, hein.
Voilà.
Tu peux le donner là.
Donc c'est www.agendaemotionnel.com, il est disponible en ligne. Et vous trouverez sur le site les différentes interventions que je fais, les différents endroits où je suis, et voilà.
Et il n'est pas encore trop tard pour troquer votre agenda 2019 pour cet agenda émotionnel.
Voilà, non, il n'est pas trop tard, voilà. C'est même,
le bon moment.
Le bon moment, voilà.
Super, bah écoute, merci Bertie. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait bon d'ajouter sur la question du cycle féminin et de comment le revaloriser?
Eh bien, voilà, pratiquer l'auto-observation apporte beaucoup de confiance en soi et permet de développer son intuition. Donc ça, c'est aussi très important et de le dire. Et ça permet aussi une prise de décision plus fluide au quotidien, puisqu'on va prendre des... Quand on a conscience de tout ça, après, on s'organise, on prend des décisions en fonction de ça, dans notre travail ou même dans ce qu'on en met en place. Y a des moments où on sait qu'on va plus avoir à faire appel à nos capacités cognitives et physiques. Donc là, on va s'organiser en fonction. Et quand c'est les capacités d'introspection et d'intuition et de création, eh bien, s'organiser en fonction de ça aussi peut être super intéressant.
Merci beaucoup.
Dans la mesure du possible, bien sûr. Après, la vie reste la vie. Hein, on
peut... Bien sûr, mais effectivement, avec cette conscience-là, ça permet de prendre des décisions plus...
plus justes pour soi et les autres. Voilà.
Merci beaucoup. Et si jamais des personnes veulent te contacter pour justement te faire venir et en savoir plus sur cette connaissance du cycle féminin, comment ils te contactent?
Eh bien, sur mon site, donc www.agendaemotionnel.com, vous trouverez toutes mes coordonnées, mon mail, mon numéro. Vous pouvez me laisser un message, je vous répondrai, etc. Et là, ce sera avec grand plaisir.
Voilà. Impeccable. Merci beaucoup pour cet entretien, Bertie.
Merci.
À bientôt. This is the sound of voices too. Au-delà de la connaissance de notre cycle lunaire, il y a aussi la connaissance du cycle solaire, c'est-à-dire du cycle des saisons de notre Terre sur une année. Et pour en savoir plus et comprendre à quel point c'est important que les femmes se connectent, les femmes et les hommes bien sûr, mais peut-être la nature féminine encore plus, même si elle l'est par nature, qu'on se connecte à ce cycle des saisons et des énergies, des changements des énergies, je suis allée voir Sylvie Perbrune, qui est sorcière. Elle se revendique comme telle et elle est aussi organisatrice de cercles de femmes. Salut Sylvie.
Bonjour Céline Elodie.
Alors, c'est quoi une sorcière en fait ?
Alors, une sorcière, on peut imaginer plein de choses, de la femme qui fait des rituels de sorcellerie à la pleine lune et qui danse nue sous la lune, justement. Moi, j'ai une définition un peu plus simple et plus réaliste et plus terre-à-terre, c'est-à-dire c'est une femme qui est déjà en lien elle-même avec son propre cycle, avec sa nature, avec ce qu'elle est en lien aussi avec la nature. Et donc, il peut travailler avec les pierres, avec les plantes, avec les énergies qui varient d'une saison à l'autre, ce qu'on va parler aujourd'hui. Et voilà, donc qui est aussi... moi, je pense qu'il y a un aspect aussi de travail avec les autres et du coup de passage de connaissances et d'aide des autres, on va dire ça comme ça, de soins, d'accompagnement.
Bon, alors là, tu vas être en plein dans ta mission de transmettre des connaissances, justement, sur la roue de l'année, puisque je sais que ça, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Tu as été la première à m'en parler de ces fameux sabbats, qui sont en fait des célébrations de moments précis de l'année où les énergies sont en transformation, c'est ça ?
Voilà, alors c'est-à-dire que la roue de l'année, c'est... on divise l'année en saisons, comme ça, on a l'habitude de le faire traditionnellement, donc printemps, été, automne, hiver. Et au-delà de ça, il y a d'autres fêtes intermédiaires, on va dire ça, entre les passage de saison qui marque aussi d'autres mouvements dans les énergies de la Terre. Donc par exemple, avant le printemps, avant l'équinoxe de printemps, il y a une célébration qui va démarrer, on commence à sentir le printemps qui va venir, avant même d'arriver sur l'équinoxe qui est le point culminant du printemps.
Voilà, c'est ça, parce que c'est vraiment des courbes, hein, et quand on fête l'équinoxe, effectivement, on est en haut du pic du printemps, alors que ces énergies ont commencé bien avant. Donc il y a toutes ces petites fêtes intermédiaires, et elles ont des noms assez peu connus finalement, que tu vas pouvoir nous révéler là aujourd'hui.
Alors ces noms, moi je me suis arrêtée à certains noms qui sont effectivement traditionnellement connus et admis voilà, dans les personnes qui les célèbrent bien sûr. Certains noms font partie de notre histoire aussi sans qu'on le sache. Par exemple Yule qui est le solstice d'hiver, c'est la façon de dire Noël dans les pays scandinaves par exemple. Oh. C'est aussi comme ça qu'on le dit.
Et oui, puisqu'en fait c'est sabbat, ces célébrations païennes hein, qui célèbrent les différentes phases de l'année sont... les célébrations qu'on avait avant l'arrivée des religions, du catholicisme, etc. C'est notre héritage.
C'est ça. Et c'est-à-dire que quand les catholiques ont voulu imposer leur religion, ils se sont trouvés face à des peuples qui avaient des célébrations, donc tous les sabbats et d'autres célébrations. D'ailleurs, ça dépendait un peu de différents endroits où chacun a un peu ses célébrations. Mais régulièrement, il y avait effectivement les saisons, les solstices, les équinoxes et toutes ces autres fêtes-là. Et donc, ils ont calqué sur ces fêtes-là des fêtes. Donc, effectivement, Noël, c'est la naissance du Christ qui va arriver sur le solstice parce que tout ce qui va être les les éléments de Noël, l'arbre, les cadeaux, enfin, on va dire que c'est ce qui définit Noël. Bah, en fait, si on regarde, c'est la définition de Yule, du solstice, avec effectivement la bûche.
C'est quoi justement, alors vas-y, il y a la bûche déjà dans cette célébration de Yule?
Tout à fait, parce qu'en fait, Yule, c'est la mort du soleil et la naissance du nouveau soleil. Parce qu'effectivement, c'est...
On passe d'une année à l'autre.
Alors, pas tout à fait, mais c'est vraiment, on est sur la fin de la descente du soleil, oui. Puisqu'effectivement, les heures diminuent et on a moins en moins de luminosité. Et à partir de Yule, du solstice, on remonte sur la luminosité. Donc, c'est d'accompagner ce renouveau du soleil. Donc, en fait, c'est... symboliquement, on va dire, il meurt, voilà. Et il renaît, ouais, ouais. Au lendemain matin. Et donc, pour l'accompagner, traditionnellement, on faisait des feux, des très grands feux pour booster l'énergie du soleil. Et donc, on faisait brûler des troncs, on va dire, c'est dehors. Après, quand on a voulu passer sur des célébrations plus familiales, du coup, bah, le feu est rentré dans les cheminées, donc c'était des bûches. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on est arrivé sur la bûche qui n'est plus forcément dans la cheminée, qui est sur la table. Et puis après, pourquoi pas en faire une pâtisserie. Donc, du coup, hop, c'est un résumé très, très rapide.
Ça nous permet de...
Mais voilà, donc du coup, c'est plein d'éléments comme ça. L'arbre de Noël, c'est quand on imagine effectivement toutes les énergies et de passer d'une énergie à l'autre, de transcender dans les différents mondes et tout, l'arbre est super important puisque c'est un ascenseur. Voilà, on part des racines,
on monte vers le ciel.
Voilà, une union entre la terre et le ciel, etc. Donc effectivement, l'arbre est super important sur cette célébration-là. Et du coup, le sapin de Noël, l'arbre de Noël, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent. Hein. Voilà, il y a plein d'autres fêtes. Ostara, c'est l'équinoxe de printemps. Ostara, chez les Allemands, ça veut dire Pâques.
Oui.
Chez les Anglais
d'ailleurs,
aussi.
D'ailleurs, chez les Anglais, c'est Oysters, voilà, on n'est pas loin.
C'est effectivement, ouais. Ça correspond à ce sabbat-là.
D'accord. Et alors, tu peux peut-être nous les décrire et puis nous donner quelques petits éléments, comme tu viens de le faire sur Yule. C'est très intéressant de découvrir finalement. Nous, on célèbre Ostara, par exemple, avec les œufs. D'ailleurs, ça ressemble
c'est
un petit
mêmes,
peu.
C'est les mêmes, parce que sur la célébration d'Ostara, il y a l'œuf qui est important, le lapin de Pâques. Hein,
oui.
Parce que du coup, le lapin est une représentation de la déesse, du renouveau, de la vie,
fertilité.
Etc. Fertilité. Et donc, du coup, effectivement, le lapin de Pâques, lièvre d'Ostara, voilà, c'est un peu les
mêmes. Je me suis toujours demandé ce qu'il faisait là, ce lapin, pourquoi on nous parlait d'un lapin de Pâques.
C'est ça. Il y a les cloches, ça c'était plus en lien avec
l'église
et l'histoire, effectivement, qu'on arrêtait de sonner les cloches pendant le jeûne et puis qu'ensuite on relançait les cloches. Donc les cloches revenaient de Rome et ramenaient les œufs, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc après il y a effectivement plein de symboles qui sont liés dans la religion catholique, ils ont été repris dans...
Et eh bien, puisqu'on est sur les solstices et les équinoxes, on a vu le solstice d'hiver avec Yule, on vient de voir l'équinoxe de printemps avec Ostara, le solstice d'été, c'est Lita,
c'est Lita.
Le 21 juin. Et alors là, on fête la lumière, justement, le jour le plus long pour le
coup. C'est ça. Et c'est une fête importante pour les sorcières, parce que du coup, c'est le moment aussi où on ramasse les plantes. Parce que du coup, c'est le moment...
Où elles sont à leur apogée.
Voilà, le moment le plus... Enfin, ça dépend des plantes, hein, mais en général, sur beaucoup, beaucoup de plantes, les plantes médicinales, etc., c'est un moment où c'est là qu'il faut les cueillir.
Au summum de leur vertu et tout ça.
Et bon, après, il y a la fête de la Saint-Jean qui est aussi dans les mêmes temps, hein, puisque le solstice est le 21 et la fête de la Saint-Jean, c'est le 24 juin.
Ah oui,
juin.
Donc effectivement, on est très proche.
Donc, après, ce qu'il faut rajouter, qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que les sabbats sont sur des dates fixes, mais les célébrations en général se déroulent traditionnellement et peuvent se dérouler sur les jours avant et les jours après, puisqu'on est sur des énergies et les changements de saison ne se font pas
du
à
jour
minuit.
Au lendemain, bien sûr.
Donc on est vraiment sur des célébrations qui peuvent tout à fait être sur les jours d'avant, les jours d'après, et donc les énergies courent sur ces moments-là.
Et après, on a l'équinoxe d'automne qui arrive le 21 septembre et qui s'appelle Mabon.
Voilà, c'est ça, Mabon. Alors, dans certaines autres traditions, les noms ne sont pas les mêmes. Après, moi, j'ai retenu cela parce que c'est ceux qui me parlaient. Mais après, suivant les différentes traditions, chez les druides, les néo-druides, tous ceux qui sont sur ces croyances-là, ils ont d'autres termes.
D'accord.
Voilà,
quel que soit le terme, il s'agit bien de la même énergie, c'est-à-dire cet équinoxe d'automne, c'est l'énergie de fin, de cycle, quelque part, on a engrangé les récoltes, mi-septembre, fin septembre, on s'apprête à rentrer dans des temps plus froids et plus intériorisés, et ça vient vraiment faire écho aussi au cycle lunaire de la femme, de la période prémenstruelle, où là, bah, on se prépare aussi à avoir nos règles, toi tu les appelles nos lunes, justement. Et puis après, on repart sur un nouveau cycle, avec la célébration de Samhain, c'est ça ?
Samhain, oui.
Samhain, qui est le...
C'est le 31 octobre, enfin 1er novembre, 31 octobre. C'est, alors là, c'est la, une des rares fêtes qui effectivement est marquée sur un jour fixe, puisque du coup, c'est comme le premier de l'an. C'est-à-dire que c'est le démarrage de la nouvelle année des sorcières,
d'accord,
la nouvelle année païenne, la, le début de la roue de l'année, puisque du coup, c'est là que ça démarre.
Et donc, c'est là où on en a plus couramment l'habitude de fêter Halloween.
Voilà, qui est tout à fait une évolution du
une
Samhain.
Une modernisation,
voilà,
du Samhain.
Avec effectivement tout ce qui est en rapport avec faire peur, se déguiser. Et puis,
le monde des ténèbres.
Voilà,
le...
qui est aussi... voilà, les symboles de Samhain, si on peut dire, c'est effectivement l'ouverture sur les autres mondes, notamment le monde des morts, et qui est, puisque c'est, comme c'est un passage entre deux années, c'est un passage entre deux moments, tous les passages sont des moments où les frontières entre les mondes s'affaiblissent, et celui-là encore plus particulièrement.
D'accord.
Donc c'est pour ça que c'est un sabbat où on célèbre beaucoup les ancêtres, les personnes qui sont décédées dans l'année, accompagner les morts, et puis voilà, c'est un sabbat qui est très favorable aux choses divinatoires, voilà, pour... voilà, si on veut travailler
avec les tarots. Connecté avec le monde de l'invisible.
Tout à fait. C'est vraiment un sabbat important pour moi, du coup. En plus, je suis née le 1er novembre, donc moi, je suis encore plus
Oui, pour toi, c'est vraiment un début de cycle. Ouais. Et alors, celui-là, on va dire que c'est le sabbat le plus important pour toi dans l'année, mais tu les célèbres quasiment tous, c'est ça ?
Je les célèbre tous, oui.
Et raconte-nous justement comment toi, dans ton expérience personnelle, tu utilises aussi la connaissance de ces énergies, de leur symbolique, etc., et comment ça t'accompagne tout au long de l'année. Comment c'est un appui pour toi et comment ça peut l'être pour tout un tas d'autres femmes et d'hommes aussi. Mais...
Alors, ce qui est important, c'est que ça permet de célébrer, que ce soit des sabbats ou autre chose, ça permet d'être en connexion avec un rythme. Et c'est super important de pouvoir soi-même être dans un rythme. Donc, il y a le rythme de son propre cycle, qui effectivement est en lien avec le rythme lunaire, on va dire ça comme ça. Et après, il y a le rythme de notre corps qui est dans les saisons. Donc, du coup, célébrer les passages de saison, c'est aussi être à l'écoute de son propre corps qui, l'hiver, aura besoin d'être plus... Bon, avec nos sociétés modernes, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais...
Mais quand même, plus
c'est quand même, voilà,
se reposer plus...
Voilà, de se ressourcer, d'être...
besoin de chaleur.
Rentrer en soi, c'est... L'hiver, c'est, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on peut le mettre en lien avec la période des lunes pour les femmes, donc des règles, où c'est un retour sur soi, où on doit être à l'écoute de soi, rentrer dans sa caverne, être vraiment être solitaire.
Quelque chose de plus méditatif.
Voilà, c'est ça. Puis vraiment, vraiment sur, à l'intérieur. Je sais pas comment, voilà, la caverne, j'aime bien parce que du coup, c'est descendre en soi et du coup, l'hiver, elle est un peu à cette image-là. Donc du coup, c'est vrai que être à l'écoute de son cycle sur les saisons, c'est se mettre en parallèle aussi avec son cycle mensuel, on va dire, et être à l'écoute de toutes ces choses qui peuvent être en résonance.
Accepter que pendant quelques mois, on est plus dans cette énergie-là.
Voilà. Et du coup, effectivement, de rythmer, de célébrer les choses, ça permet aussi au corps et à l'esprit de marquer les choses. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dans notre société de passages.
Oui, de rituels pour célébrer ces passages. Oui.
Alors, il y a les passages dans la vie qui ne sont pas célébrés non plus. Moi, je trouve c'est important de les célébrer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc, célébrer les saisons, c'est un petit truc pour commencer. Voilà, on se met un peu à l'écoute et on se dit, tiens, là, on va rentrer dans le printemps. Allez, hop, je fais une petite célébration. Je vais planter des fleurs. On le fait instinctivement. Il y a plein de chose qu'on fait...
Mais sans conscience.
Sans
là, toi,
conscience.
Ce que toi, tu invites à faire, c'est vraiment de mettre de la conscience dessus, de le
c'est
faire
ça.
En conscience.
Et que du coup, les célébrations, c'est s'astreindre, alors même si c'est pas contraignant, mais s'astreindre à le célébrer et à se dire, c'est aujourd'hui, je célèbre, donc je vais faire ces choses-là en conscience et puis à avoir aussi, parce qu'il y a ce qu'on reçoit et qu'on va célébrer, mais il y a aussi ce que nous, on va mettre comme énergie là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quand je disais à Yule, on fait des feux pour relancer l'énergie, c'est aussi apporter à la Terre notre énergie pour l'épauler. Donc il y a ça aussi qui est c'est un double sens, on va dire.
Ça donne et ça reçoit.
Voilà, c'est ça, et ça circule.
Et alors toi, comment tu fais par exemple à l'échelle de ta famille pour célébrer ça, parce que tu le fais pas toute seule, hein.
Non.
Et puis tu le fais de façon très spontanée, c'est pas en suivant un rite ou un dogme venu de l'extérieur, vraiment tu écoutes ce que tu as envie, mais par contre tu inclus toute ta famille dedans. Alors
voilà,
tu peux nous donner quelques idées, quelques exemples.
Bah après c'est faire avec les enfants quand ils sont tout petits, bon bah il y a pas, on fait des petits ateliers des fois, voilà, j'ai pas une idée qui me vient tout de suite en tête, mais oui,
faire une belle table.
Alors faire une belle table, ça c'est à peu près à chaque fois.
Voilà. Préparer un bon petit repas.
C'est des repas en fonction avec la saison, c'est-à-dire que si effectivement c'est l'automne, on va faire des citrouilles, ça mène, c'est les citrouilles. Si on est Ostara, c'est les œufs, hein, donc du coup on va faire des omelettes, on va faire des gâteaux, des crêpes. Les crêpes c'est Imbolc, désolé.
Alors Imbolc, on n'en a pas parlé. Ça c'est une fête intermédiaire, Imbolc. Hein.
Voilà.
C'est l'arrivée du printemps avant même qu'on s'en rende compte.
C'est la chandeleur.
C'est la chandeleur.
La chandeleur, okay. Les crêpes, on utilise des œufs, le rond, et puis le rond de la crêpe qui est le soleil, en fait.
Okay.
Et voilà, c'est une fête de lumière aussi, la chandeleur. La chandeleur, c'est ça. C'est
1er février.
Voilà, au 1er 2 février, en fait, on est sur ces moments-là.
Ouais.
Et du coup, voilà, faire des crêpes avec les enfants, enfin, c'est tout simple. Mm-hmm. On en fait ce jour-là, on en fait à d'autres moments, mais ce jour-là, on fait des crêpes, on les fait ensemble, voilà, on fait des choses comme ça. Chez nous, à Ostara, on cherche des œufs. Des œufs au chocolat, c'est bien. Et puis voilà, après qu'est-ce qu'il y a encore?
Beltane, c'est aussi une fête intermédiaire dont on n'a pas parlé. Beltane, qui est le 1er mai. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle représente?
Alors Beltane, c'est le démarrage de l'été. Donc c'est une fête qui est fêtée en Allemagne, je crois. Hein.
D'accord.
C'est les mâts de mai, dans ce qu'on appelle les mâts de mai.
Les mâts de mai.
C'est des mâts avec des rubans et puis
couleurs.
On danse, on en mêle les rubans.
D'accord.
Ça c'est une fête qui existe encore dans les pays allemands. Peut-être les pays nordiques aussi, je ne suis pas très au clair, mais voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. Mais Beltane, c'est une fête qui est aussi, alors il y a la dimension de la sexualité, on va dire ça comme qui est effectivement, parce que j'ai pas tout repris, mais si on...
Avec le mât de mai, déjà, on avait sur le mât symbolique...
Avec un petit cercle en haut qui représente le rond et voilà.
D'accord, okay.
Donc c'est parce que c'est le moment aussi où traditionnellement, c'est... 9 mois, on va dire, grosso modo, avant qu'arrive Noël, qui est la naissance du soleil. Donc, du coup, c'est là, si on peut...
La fécondation.
Voilà, on peut aller sur les traditions plus Wicca, qui est une religion, enfin, pas chez nous, mais dans les pays anglo-saxons, américains, ou canadiens même, c'est une religion qui, du coup, a codifié toutes ces célébrations païennes et puis, voilà, plein d'autres choses autour de célébrations des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Et du coup, chez eux, effectivement, c'est tout le cycle de la roue de l'année est sur la déesse et le dieu qui vont s'unir donc à Beltane et qui du coup au niveau de Yule le bébé va naître qui est le dieu qui renaît et qui va grandir. Enfin voilà, c'est une façon de voir les choses. Moi,
en même temps, quand on regarde la nature, 1er mai, ça bat son plein. Hein. C'est vraiment la période des amours, etc. Donc on y est. Hein. On célèbre cette énergie-là aussi
de sexualité, de fécondité, de reproduction.
Voilà, tout ça.
Et effectivement, traditionnellement, c'est aussi les moments des mariages.
Oui.
Et chez les païens, donc ça se retrouve encore. Hein, c'est ce qui s'appelle le hand fasting. Donc c'est le moment où les gens qui s'aiment s'unissent.
Oui.
Et donc c'est quelque chose qui est super à la mode hein, de faire des mariages païens avec un prêtre qui lie les mains. Donc ça s'appelle la célébration de lien des mains. Bon, je sais pas comment ça se traduit, un fasting quoi. Et du coup c'est sur ces fêtes là de Beltane que ça se passe en général, traditionnellement.
D'accord. Après on arrive à la fête de la lumière, donc l'Ita, solstice d'été. Toi tu l'as faite comment celle-là? C'est pas loin des feux de la Saint-Jean.
Voilà,
t'aimes
c'est
bien
fêter
le feu de la Saint-Jean.
On fait le feu, effectivement. On brûle des choses, donc c'est vrai qu'on brûle des choses souvent. Hein, nos sabbats, c'est vrai qu'on, pas tous, mais régulièrement, c'est le moment où on se laisse partir des choses.
On se débarrasse.
Et puis voilà, donc il y a des moments particuliers comme l'Ita où effectivement c'est vraiment le feu. Donc voilà, personnellement j'ai eu un cancer sur l'Ita, c'est le l'Ita où mon cancer s'est terminé. J'ai tout brûlé tout pour nettoyer tout ce qui était en lien avec la maladie. Voilà, les dossiers médicaux,
les blouses, les machins.
J'ai vraiment tout brûlé. J'ai fait un grand feu dans mon jardin j'ai vraiment tout brûlé. c'est purificateur.
Bah, ça nous donne un bon exemple de comment utiliser ces fêtes, notamment.
Tout à fait.
Très bien. Et puis, alors après, on arrive 1er août sur Lughnasadh.
Voilà. Alors, c'est aussi une fête de la lumière, puisque du coup, on est au mois d'août, donc on a encore bien lumière. Mais c'est aussi une fête de voilà, l'image, c'est la corne d'abondance, parce qu'effectivement, c'est le moment où on récolte de tout, les fruits, les légumes, on est au summum des productions. Et donc, c'est une célébration de la nature qui nous fournit de quoi vivre. Mmh. Et voilà, après, elle est en lien avec Mabon, qui est l'équinoxe d'automne, mmh. où là, on va remercier.
Pour les récoltes effectuées.
C'est en lien. C'est mmh. effectivement, on a un premier remerciement, on va dire, parce qu'on est en train de le célébrer. On est content, on fête ça. Et puis, à Mabon, on remercie, on engrange, mmh. on est sur des énergies qui commencent à être sur. On remercie parce qu'on va pouvoir tenir tout l'hiver.
Merci beaucoup, c'est passionnant et ça donne vraiment envie d'intégrer effectivement ces énergies un peu plus en conscience dans nos vies. Oui. Et de pas seulement se concentrer sur le calendrier scolaire ou sur d'autres.
Ouais, c'est sûr. Et puis de se dire qu'on peut les mettre en lien avec sa famille,
avec
tout ce qu'il y a. Donc de se dire à un moment c'est la course. Baf, je me pose un peu et je fais un petit rite pour passer à la saison suivante, pour
même
accompagner.
Même si c'est une heure, mais je prends ce petit temps pour moi, pour nous.
Bah, avec les enfants, c'est ce qui se passe aussi. Des fois, il y a les sabbats où on ritualise beaucoup parce que c'est des sabbats importants, comme Samhain, des choses comme ça, ou Yule parce que c'est en lien avec Noël, donc on est dans cette énergie-là de fête. Après, il y a d'autres sabbats comme Mabon où des fois ça tombe en plein milieu de la semaine, c'est l'école, etc. Donc on n'est pas forcément sur des grandes célébrations, mais rien que se dire tiens, aujourd'hui c'est Mabon, on va se faire un petit repas, on va remercier la nature et puis on va se faire un petit feu, on va faire deux trois des tableaux de feuilles par exemple, puisqu'on est sur l'automne, on ramasse des feuilles, on va faire un petit tableau et puis on remercie comme ça. On peut être sur aller cueillir des choses, du blé sur Lughnasadh ou Alita, ça dépend effectivement dans quelle région on est. Ici, c'est vrai que souvent
le blé, il arrive plus tôt.
Le blé, il faut le ramasser à Alita.
Donc là, on ramassera des feuilles de vigne.
Voilà, mais après il y a des tas d'autres choses. Mais on peut aussi se faire des petites choses comme ça et rien que se faire une balade juste pour poser, se dire je sais que je passe dans un nouveau cycle, une nouvelle saison, je vais dans la nature. On marche une heure de temps, on se pose et on regarde un peu la nature, comment elle est à ce moment-là. Et la nature nous renvoie aussi ces changements d'énergie et où on en est. On se met en lien de cette manière-là. C'est aussi ça, les célébrations, c'est se mettre en lien avec ce qui se passe dehors. Dehors et dedans,
C'est le double miroir.
Ouais.
Merci beaucoup, Sylvie, c'est très inspirant. Dis-moi, pour les gens qui veulent en savoir plus, tu m'as parlé d'un site internet, donc on peut le citer, c'est les portes du CID. CID, ça s'écrit S-I-D-H, qui reprend un tas de connaissances sur ces sabbats. Et pour les gens qui voudraient te contacter, par exemple, pour rejoindre un cercle de femmes ou autre, parce que tu fais d'autres activités, tu veux nous en toucher un mot ?
Oui, après,
justement, les sabbats, tu les célèbres et tu les ouvres.
Des cercles de sabbats, effectivement, pour que...
Initier les gens à cette célébration.
Et puis faire participer quand on ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis des fois, de le faire à plusieurs, ça peut être sympa aussi, ça emmène une autre énergie. Donc donc j'organise des cercles de sabbats, de temps en temps. J'essaye régulièrement. Mais c'est pas évident parce que je bosse à côté.
Donc c'est dans le Gard et c'est à côté d'Alès, on peut dire.
Voilà, un quart d'heure, 20 minutes d'Alès.
Voilà. Tu veux donner tes contacts pour que les gens puissent te joindre à ce sujet ?
Oui, alors mon nom de sorcière c'est Saphira, S-A-P-H-Y-R-A.
Y-R-A, Saphira.
Saphira, et donc du coup je suis sur Facebook Saphira la sorcière, donc je suis tapée Saphira la sorcière et on me trouve. C'est un site, une page ouverte, donc du coup on peut tout à fait aller voir. C'est pas super actif en ce moment, mais il y a les infos quand il faut. Et puis, après, j'ai des sites internet, mais qui sont un petit peu en sommeil là, parce que du coup, c'est l'hiver, je suis en sommeil un petit peu aussi. Hein, je me suis mis en connexion. Et sinon, j'ai un numéro de téléphone qui est le 06 88 26 71 05. Voilà.
Saphira la sorcière.
Tout
à fait. Merci beaucoup.
Merci à toi, Céline et Louis.
À bientôt.
À bientôt.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.